France Inter.
C'est pourquoi c'est cet un garçon ou une fille?
Un tout petit qui va avoir une vie magnifique.
Ou pas? CO2, mon amour.
Bah quoi, c'est pas vrai?
Non mais regardez autour de vous. Vous nous laissez un monde tout pourri.
Mais qu'est-ce qu'on vous a fait?
Denis Chessou.
Ce que vous m'avez fait, ma petite dame? Mais votre génération est à l'origine de tous les fléaux du monde moderne. La mondialisation, hein, l'ultralibéralisme, la pollution, la surexploitation, l'agriculture extensive, les paradis fiscaux, la communication, tout. En 80 ans, vous avez épuisé la quasi-totalité des espèces vivantes. Vous avez épuisé les ressources. Vous faites tous les poissons. Mais vous êtes la pire génération de l'histoire de l'humanité. Et un malheur volant jamais seul. Ben vous vivez hyper bien.
Sur France Inter.
Ah, et mon bébé, il vous dit merde. Oh.
Eh bien, joie, bonheur et bienvenue dans ce monde merveilleux. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans ce haut de mon amour. Ça va être un peu plus zen, la nature chuchote donc à vos oreilles avec Rémi Sissiaga à la technique. Notre collaboratrice c'est Camille Blanès et c'est Juliette Gou qui réalise l'émission. Un petit peu dans la suite, tiens, tenez, apparemment la seule cible que n'aura pas impacté le bouleversement climatique, c'est le cerveau blindé de tous les sceptiques en hausse à travers le monde, ouais, et convaincus que rien n'entravera la marche inexorable du progrès, surtout d'ailleurs sans chercher à le définir. Tant que leur jardin personnel ne sera ni bousculé par une faille tellurique, un effondrement de carrière, une submersion de maisons les pieds dans l'eau ou l'installation d'une éolienne, tout reste pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ah, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? On peut rien y faire. Et puis sur les réseaux sociaux, il y en a qui disent que c'est pas vrai. Bon, alors zen, on respire. Les scientifiques ont beau remuer ciel et terre médiatiques depuis des décennies, coller des capteurs au fond des aires marines protégées de Bretagne. On ne sent pas une opposition farouche d'ailleurs du Conseil régional pour continuer à chaluter en rond comme avant. Ratissons un jour, ratissons toujours, sinon ce seront les autres qui le feront. Oui, mais on est dans un monde fini. Oui, mais ça on s'en fout. Sur l'autre épaule de la France, en Alsace, la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg en appelle aux scientifiques plus qu'à Dieu et ses gargouilles pour ausculter sa flèche qui encaisse les variations du climat. Alors elle a fait fi des guerres, des incendies, mais la plus belle flèche du monde ne peut donner que ce qu'elle a face aux pluies gorgées de sel qui lèchent trop la pierre, en s'infiltrant dans le très beau grès rose. Alors le ciel la sauvera-t-elle des méfaits du ciel et des humains qui l'ont déréglé? Mais l'augmentation du CO2 ne se met pas sur pause. Alors vous avez des études similaires qui ont lieu sur le site granitique de Bibracte, sur la chapelle Saint-Pierre de Villefranche-sur-Mer en calcaire et décorée par Cocteau. Et ce dernier disait « Le drame de notre époque, c'est que la bêtise s'est mise à penser ». Alors les scientifiques sont désabusés ou en colère de ne pas être écoutés. Autant cracher dans les viscères de poulet offerts en vain aux dieux. La pitié ne fait pas recette. Les foules regardent ailleurs. L'avenir s'annonce encombré d'orages lumineux. Rien ne bouge dans les bunkers. À l'extérieur, c'est la panique. Tout le monde court sans directive dans les coursives. Et les monstrueux navires de croisière défoncent toujours les fondations de Venise. On crie à tu et à toi, on signe des pétitions à tour de bras contre le bitume, les chaînes qu'on abat. Les coins amoris surfréquentés grâce aux applications GPS, oui, hein, vraiment. Les 16 millions de touristes aux Canaries. Et pour l'eau potable aussi, qui manque et dessèche nos belles Pyrénées orientales. Alors tout cela au moment où le peuple en déroute réclame de l'ordre, de la discipline, de la sécurité, des médecins de l'âme et du corps. Et pas question de ramasser les ordures en ville ou de nettoyer les bureaux à l'aube, laissons cela à ceux qui n'ont rien. Et cette chanson-là, dans les bunkers, on sait très bien l'entendre. Mais les talents, les meilleurs talents du pays ont su conjuguer leurs efforts pour remonter en quelques années les voûtes, la charpente de Notre-Dame de Paris. Alors vous voyez bien quand même, on est aussi capable du meilleur. De l'air, ça va être au bord de la Moselle. Et oui, sont que ce week-end, ce dimanche, parole à un jeune naturaliste, Victor Noël, donc en bord de Moselle, qui racontera ses combats, ses émerveillements et ses espoirs.
Ses bas gris dans ses eaux bleues, m'ont s'accroché à l'arbre, ma vie m'a prise, je suis au fer, presque à ton bras, deux pas pour le bal, trois sur le côté, passer lentement sous le ciel qui change ses habits sans faire de beau dimanche, sans faire de beau dimanche. 12 heures puis le reste, on nous chatoune à travers le temps. Joli chien qui tôt matin me mord le bras, les yeux, les parallèles, les suivre jusqu'au ciel et tourner mon ombrelle. Ça n'était qu'un doux rêve sans faire de beau dimanche.
Suivre jusqu'au ciel
et tourner mon ombrelle. Ce n'était qu'un doux rêve.
Le Marion et Belin Bertrand étaient demandés au parloir, ben c'est assez réussi, ça s'appelle donc De Beaux Dimanches, vous l'avez compris. Et dans ce beau dimanche, où partons-nous? On va à la rencontre d'un garçon qui s'appelle Victor Noël.
Ben ici on est juste au bord de la Moselle, un bout de Moselle sauvage qui n'est pas canalisé, et donc on a ces îlots qui parcourent la Moselle et qui donc forment des lieux de quiétude pour les oiseaux. Depuis tout petit je viens ici, alors d'abord c'est vrai, c'est surtout mon jardin qui a développé un peu un attachement, une curiosité pour le vivant, mais aussi cette Moselle, quoi, où j'ai commencé à faire de la photo, où j'ai commencé à observer les oiseaux d'eau. En septembre, octobre, il y a les balbuzards pêcheurs qui passent. Là, maintenant, il y a les sternes qui viennent d'arriver. Donc, c'est des coins comme ça qui peuvent sembler un peu anodins, mais quand on en est attaché, c'est assez important. Et puis, quand on est attaché à un lieu, mais pour les espèces qui y vivent, eh ben, c'est un rapport complètement autre. Parce qu'on n'est pas juste attaché au côté minéral, au côté, mais vraiment à son caractère vivant. Et donc il y a quelque chose de beaucoup plus, un rapport beaucoup plus réel à ce milieu. Ce n'est pas juste un simple décor, c'est un écosystème complexe, c'est un lieu de, bah, finalement, où les espèces échangent, interagissent les unes avec les autres. Et donc ça renforce encore plus l'attachement qu'on peut avoir pour les milieux. Ce n'est pas juste du minéral ou de la topographie, c'est du vivant.
Rendez-vous sur les bords de la Moselle, donc, vers Agondange, à 15 km à peu près au nord de Metz, en direction de Luxembourg. Et nous sommes sur les chemins du vivant, qui est le titre donc du livre de Victor Noël, 18 ans, avec ce carnet de route d'un jeune naturaliste engagé aux éditions Delachaux et Niesley, donc sur les chemins du vivant. Alors la commune de Platigny n'est pas si loin, mais les terrains de foot n'ont pas exactement la diversité recherchée par notre jeune explorateur du vivant. Il préférera toujours donc la chicorée sauvage sur le trottoir, butinée par un insecte, l'aubépine, le cornouiller, le prunelier, la ronce généreuse, aux haies plutôt uniformisées des zones pavillonnaires. Alors il se pose la question toujours, pourquoi le vivant est-il si malmené ? Le nord et l'est de notre pays ont fourni le charbon, et ont réussi d'ailleurs. Ici, dans ce coin de Lorraine, eh ben, c'est l'acier. Après la déprise industrielle et ses douleurs sociales, eh ben, la nature s'est de nouveau invitée. Oui, elle a horreur du vide, on le sait. Et elle s'étale, comme elle peut, là voilà, un peu partout. Entre étangs, mares, friches industrielles, la vie ordinaire est là, et elle passionne Victor, que j'avais rencontré quand il avait 15 ans. J'avais le désir de le retrouver, quelques courtes années plus tard, sur le bord de cette Moselle, de sa Moselle, hein, c'est sa rivière d'enfance et d'observation. Donc aujourd'hui, un autre lieu dans notre herbier de paysage, dans le carnet de nature de CO2 Mon Amour, et avec un garçon, à la lucidité, la maturité, l'engagement et au désir. Assez stimulant.
Ouais, bah donc ici c'est un bout de la Moselle, tiens le col vert qui décolle, c'est un bout de la Moselle qui est pas canalisé, qui est assez sauvage. Alors c'est pas la Moselle sauvage de la Meurthe-et-Moselle, mais c'est quand même un coin assez intéressant. Ouais, tu vois les grands saules de l'autre côté qui servent de perchoir aux cormorans notamment. Puis tu vois il y a les petites îles, les îles au milieu de la rivière qui c'est un peu des lieux de quiétude pour les oiseaux. Alors là le niveau il est assez haut. Mais habituellement, il y a plus d'îlots et de petites bandes de gravier où tu as des limicoles qui viennent se nourrir.
Alors, qu'est-ce qu'on va voir là? On va pas les déranger. Non, ça. Ah, oh, d'ailleurs, quand je vois un oiseau, moi je me dis, tiens, c'est un dinosaure.
Bah oui, tout à fait, ouais. Alors, c'est pour ça que je commence mon bouquin, il commence au bord de l'eau, pour rappeler notre histoire. Et notre histoire, celle des vivants. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 3,8 milliards d'années, le vivant est apparu sous forme unicellulaire. Et de ces premiers êtres unicellulaires, on descend tous finalement. Moi, toi, les orties qui poussent là à nos pieds, le col vert qu'on a vu tout à l'heure, les saules qui sont là, les bactéries qu'on a dans notre système digestif.
La même source.
Voilà, c'est ça. Il y a 3,8 milliards d'années, toutes ces espèces ne faisaient qu'une. Et donc ça nous remet un peu à notre place, ça nous resitue, ça nous recontextualise dans la grande communauté d'espèces vivantes dont on fait partie. Et donc voilà pourquoi ça me semblait intéressant de commencer cette promenade dans mon livre au bord de l'eau.
Là, on est sur les orties. Bah, dis-donc, on pourrait faire de la belle soupe, là, avec tout ça.
Bah ouais. Il y a même du gaillet. Ça a le goût un peu du petit pois frais.
Où est-ce qu'il est ton... Ah oui,
Je l'ai vu tout à l'heure, alors là, je sais pas. Mais là, ici,
si,
là, voilà.
Il est là, ouais. Il ressort sa petite tête.
Tu regardes le Milan.
Oui.
Le Milan noir. Qui peut se nourrir un peu des poissons. Bon, c'est pas ce qu'il mange principalement,
non,
mais
assez
il peut quand même...
Ouais. Ah, qu'il est beau, celui-là. Oui.
Ah, puis tu vois, là, une sterne. Elles viennent tout juste de revenir de migration. Et donc on ira peut-être tout à l'heure, il y a un îlot à côté sur un étang qui appartient à l'LPO où il y a l'ensemble de la population de Stern Pierre Garin de Moselle qui niche là.
Ah, celle-là elle fait quoi? Elle fait pas le tour de la planète quand même? Non,
alors non, celle qui passe de l'Antarctique à l'Arctique, c'est la Stern Arctique, voilà. Ils se ressemblent beaucoup. Mais la Pierre Garin, elle se reproduit chez nous, puis elle hiverne, je crois, en Afrique subsaharienne, donc elle fait quand même beaucoup de kilomètres, mais moins que sa cousine, la Stern Arctique.
Oh, on a quand même, c'est sympa, on a quand même quelques libellules. Alors ça, on est dans la famille des odonates. Les œufs deviennent donc des larves, et après, comment ça se passe?
Oui, c'est ça, en fait, les odonates, que ce soit les libellules ou les demoiselles, comme on dit communément, ou les agrions, ils passent plus de temps dans l'eau que dans leur vie aérienne, en fait. Il y a même des libellules qui, ça peut aller, je crois, jusqu'à 5 ans de vie larvaire sous l'eau. Bon, la majorité, je crois que c'est plus un ou 2 ans. Et ici, le long de la Moselle, c'est un spectacle assez incroyable. Surtout des agrions. On a par exemple les Caloptérix, qui sont ces agrions assez magnifiques, tu sais, un bleu foncé. Alors moi, je connais pas trop les insectes, mais ne serait-ce que comme ça, en posant un seul regard sur les berges, on voit une diversité assez incroyable de ces odonates. Et même une simple mare dans son jardin peut suffire à accueillir les libellules ou les agrions.
8h, je ne sais pas si on en verra, peut-être non, peut-être pas, parce que là il fait pas nuit du tout. Mais merci au castor, sacré écolo hein, le castor.
Ah ben ouais, bien sûr, c'est un architecte qui sculpte le milieu aquatique. Alors il a ses barrages qui peuvent embêter un peu les agriculteurs qui sont sur les bords de la rivière, mais en fait ça crée des zones humides bénéfiques à de nombreuses espèces. Je crois même que ces barrages peuvent faire des frayères à brochets.
Oui.
Et puis ils nettoient la ripisylve, ils entretiennent les roselières en coupant les saules qui repoussent en têtard. Ça fait des zones de nidification pour les passereaux. Et donc le castor qui avait été exterminé complètement de la France entière, il en restait un peu dans le Rhône.
C'est-à-dire qu'on aimait bien à la fois et sa chair et sa peau.
Ouais, et puis on le considérait comme un poisson.
Et oui.
Alors on le mangeait en vendredi saint, quoi. Bon, il faut le faire carême. Quand même pour dire un castor et un poisson.
Non, mais ça c'était les moines de l'époque, ils étaient très affûtés. Ouais. On n'a pas envie de bouffer de la viande, mais regardez le castor.
Le castor,
mais non,
il a la queue écaillée, quoi.
Et bien sûr.
Mais du coup, c'est dans les années 80 à peu près que les castors ont été réintroduits le long de la Moselle, vers les Vosges et la Meurthe-et-Moselle. Et depuis, ben, ils reprennent possession du, ben, des rivières. Et, alors, on ne les voit pas vraiment parce que c'est nocturne. Et c'est, on peut les voir en été le soir, mais on, par contre, ils ne passent pas inaperçus parce que c'est, ça passe son temps à travailler, à couper des arbres, à ronger les saules.
On va peut-être changer de lieu, là, après. Mais, en fait, ce coin est toujours attachant parce qu'on sait que l'industrie n'est jamais loin. Et on oscille entre des bouts de nature, comme ça, là, on voit personne. Alors, évidemment qu'il n'y a rien de sauvage, hein, ici. Mais, et puis, d'autre côté, donc, l'industrialisation. Et donc là, donc, travail avec la LPO, et à côté donc, de cet étang et de cette gravière, donc vous avez creusé une mare.
Parce qu'en fait, les berges, comme c'est une ancienne gravière, les berges de l'étang sont assez abruptes, et donc ça ne se prête pas vraiment pour les amphibiens et les libellules. Et donc voilà, l'idée a été de creuser cette mare qui peut accueillir des espèces qui ne se retrouveraient pas forcément dans l'étang. Donc c'est pour varier, hein, encore une fois, bah voilà, l'espace et les milieux pour accueillir un maximum d'espèces. Et y a cette idée vraiment de rechercher la diversité partout, à toutes les échelles. Et finalement, c'est ça qui doit nous guider notre œil. Et donc là, il y a la vie qui commence tout doucement à prendre possession de la mare. Il y a déjà des grenouilles, il y a déjà des coléoptères aquatiques, alors qu'elle a à peine quelques mois.
Alors ce qui est toujours fabuleux, c'est de se dire que le vivant est toujours allé vers la diversité, toujours allé vers l'abondance, et donc c'est cette diversification qui fait que nous sommes là aujourd'hui, et nous on a de cesse de faire l'inverse et d'uniformiser les choses.
Voilà, le vivant, depuis qu'il existe, il va sans cesse vers la diversité des espèces, la diversité génétique, la diversité des formes, vers l'abondance, vers la complexité. Et nous, culturellement, on est attirés parce qu'il va être droit, rangé, uniformisé. Oui, c'est ça, c'est dans notre sens de l'esthétique, dans notre culture. On est partisans de l'ordre. Et donc, finalement, ça nous met en contradiction avec nous-mêmes, parce que nous sommes nous-mêmes vivants. Et l'enjeu est donc de repenser notre vision de l'esthétique, notre vision de ce qui fait sens, de ce qui est beau. Ça peut paraître insignifiant, parce qu'on se dit, bah, à la rigueur, arracher ou pas une plante sur un trottoir, on s'en fout, c'est pas ça qui va... Il n'y a pas d'enjeu autour de la biodiversité.
Non, mais un petit,
ça dit
un petit plantain, c'est sympa.
Mais voilà, non, mais c'est de fait renoncer à... Voilà, dans mon bouquin, je termine en disant prendre les chemins du vivant, de la diversité qu'il recherchait éperdument. C'est de fait renoncer à celui de la destruction. Parce que mécaniquement, culturellement, dans notre rapport à ce qui est beau, la destruction devrait être incompatible avec notre culture. Quoi. L'idée de trouver une pelouse, voilà, une pelouse foisonnante de vie, beau, et pas quelque chose d'impropre, c'est quelque chose qu'on doit développer.
Là, tu m'emmènes où ?
Ah bah là, on quitte la mare et on va vers l'étang. Il y a une palissade qui a été construite contre le dérangement.
On prend un chemin de... Je sais pas si les sangliers passent, là.
Il y a pas mal de traces de chevreuils, là.
Ah oui, chevreuils, ça on voit.
Et donc, en fait, la LPO, elle a pu devenir propriétaire de ce terrain, donc de plusieurs hectares avec un étang et donc des haies, des zones un peu ouvertes, suite à une mesure compensatoire. Donc, en fait, on a construit, pas loin de Metz, derrière Metz, pour ceux qui connaissent à la Zagdoni, le Wave, on a construit un grand centre commercial sur des zones humides. Ouais. Et la compensation, finalement, a fait que la LPO puisse devenir propriétaire de ce terrain. Alors, en soi, c'est super, parce que du coup, maintenant, on peut préserver ce coin. Mais finalement, il y a aussi l'idée de la compensation écologique qui est questionnée, qui est, à mon sens, un peu un permis de détruire. C'est-à-dire que les élus ne vont pas avoir un questionnement sur est-ce que tel projet est réellement utile. Ils vont nous dire, bah, de toute façon, on compense. Hein, il y a ce fameux trio,
éviter, réduire, compenser. Et on va directement sur être C.
Et donc, c'est un discours complètement technocratique. C'est, on va raser des arbres, mais on va en planter trois à côté.
Mais on a bonne conscience, tu vois, Victor, avec ça. Tu vois, c'est ce qu'on appelle les indulgences modernes.
Et il y a une étude qui a été menée notamment par le Muséum d'Histoire Naturelle qui montre que dans 80% des cas, la compensation écologique ne permet pas de compenser la perte de biodiversité.
Il y a deux choses, soit c'est une petite pelleteuse, ou soit éventuellement c'est un sanglier. Qu'est-ce que c'est là ?
Là, c'est des sangliers qui sont passés. Donc on voit qu'on a ce milieu ouvert, et on a ces sangliers qui sont passés, qui ont creusé ce qu'on appelle des boutis.
Des boutis.
Des boutis. Alors les sangliers, voilà, ils font des boutis et des vermis. Les boutis, c'est quand ils font des trous comme ça, et les vermis, c'est quand ils suivent, c'est plus linéaire, quand ils suivent des galeries de mulots, des racines. Et donc on est dans des espaces naturels comme ça. Des fois, je discute avec des gens, et ils me disent c'est du dégât, c'est moche, regardez le dégât. Mais moi, je vois tout le contraire. Je vois une zone qui est bénéfique aux abeilles terricoles qui vont venir creuser leur galerie dans ces zones qui ont été mises à nu. Et puis ici, on voit une boutique qui est plus ancienne, où finalement, le cycle de la végétation était remis à zéro. Ça permet une diversité végétale, parce qu'à partir du moment où le cycle de la végétation prend de l'âge, le sanglier, lui, il arrive et il remet tout à zéro. Et donc, il y a des plantes qui peuvent... Voilà, c'est... Moi, après, c'est ce que j'ai observé, en tout cas, chez moi, quoi.
Ah, là, Victor, tu nous emmènes derrière donc une petite palissade en bois avec une ouverture et avec une vue, on va dire, quasiment imprenable, alors, à la fois sur la nationale et autoroute en direction de Luxembourg, mais surtout un petit îlot avec nos mouettes.
Ouais, avec les mouettes qui sont là. Alors ça, cet îlot, habituellement, il accueille surtout des sternes pierre-garin. Là, j'ai une petite inquiétude parce que je vois surtout des mouettes. Alors, il y a un peu un équilibre, c'est-à-dire que s'il y a un peu de mouettes, ça incite les sternes à venir parce qu'elles voient que voilà, c'est un lieu qui peut être intéressant pour elles. Mais j'ai peur que s'il n'y a que des mouettes, il n'y ait plus de place pour les sternes. Et l'îlot qu'il y a sur l'autre étang, comme il est plus haut, il est moins intéressant pour les sternes. Donc voilà, j'ai une petite inquiétude là-dessus, mais bon, on verra. Pour l'instant, les sternes ne sont pas tout à fait encore installées. Donc,
mais ça, c'est les lois de la nature. C'est-à-dire qu'il y a un moment, une espèce peut en chasser une autre, en déloger une autre. En tout cas.
Elles cohabitent bien. Après, c'est juste une question de place. Est-ce qu'il y aura assez de place sur l'îlot? Je ne sais pas.
Ce qui est formidable, Victor, c'est que tu fais partie donc, de ces gens qui sont hypersensibles à cette nature qu'on va dire ordinaire. Je mets bien des guillemets, évidemment, à ordinaire parce qu'elle est aussi extraordinaire. Évidemment que pour rentrer en curiosité et puis aussi en amour avec, on va dire, pour faire très simple, la nature, on a besoin aussi d'animaux un peu emblématiques. Mais toi, tu t'intéresses aux végétaux du quotidien, aux oiseaux du quotidien, aux animaux, aux petites bêtes qu'on ne voit pas forcément.
Oui, justement, ce qui est intéressant avec ça, c'est de dire que la déconnexion, entre guillemets, qu'on peut avoir au fonctionnement des écosystèmes, l'attention qu'on peut porter aux espèces, elle n'est pas géographique. Hein, souvent, il y a cette espèce de dualité où on voudrait opposer les gens de la campagne et les urbains, de dire que finalement, si on est cette société qui ne comprend pas le vivant, qui est déconnectée, qui n'est pas contemplative, c'est lié aux urbains qui n'ont pas accès au milieu naturel. Mais en fait, la déconnexion, elle n'est pas géographique, elle est intellectuelle, elle est culturelle. On peut très bien vivre en ville, au centre-ville de Paris, être pleinement attentif, regarder ce qui nous entoure, regarder les martinets qui passent, qui nichent à Paris et se raconter leur histoire, que c'est des oiseaux qui passent leur vie en vol et que c'est assez incroyable. Et on peut très bien vivre à la campagne et ne pas être attentif à l'égard des espèces qui nous entourent. Donc la déconnexion, elle est culturelle et intellectuelle, elle n'est pas géographique et ça, pour moi, c'est important de le dire.
Mais oui, et donc une très belle réflexion, alors restez avec nous, nous aurons notre Moselle et aussi zone industrielle. Non, ne fuyez pas, bien au contraire.
Sur les bords de la Moselle, j'avais un amour. Elle me faisait des quenelles, des patates au four. Elle me cuisait des tartes aux myrtilles. Me glissait dans ses lettres des jonquilles. Sur les bords de la Moselle, je prenais le train. J'allais voir Mirabelle les jeudis matins. Dans les squares d'Épinal, on s'envoyait des baisers que l'hiver nous givrait. Sur les bords de la Moselle, sur la voie ferrée, de Nancy à Vittel, mon père travaillait. Il rêvait de l'Orient, de la Perse. En serrant les éclipses,
douceur des traverses. Sur les bords de la Moselle, j'avais un amour qui me faisait des quenelles, des patates au four. J'avais 15 ans à peine et je brûlais les vieux navires de guerre qui coulaient. La 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 la.
C'était Yves Simon qui quand même nous fait rimer amour avec patate au four. Eh ben oui, donc sur les bords de la Moselle, donc Yves Simon, je crois qu'il est originaire de Haute-Marne au départ, mais en tout cas il a eu toute une enfance du côté de Nancy. Donc je vais vous emmener toujours au bord de cette Moselle, pas loin d'une zone industrielle. Alors c'est pas exactement l'endroit où on a envie de passer ses vacances. En revanche, vous avez plein de coins quand même, plein de coins extrêmement sympas en Moselle. Vous regardez le site Tourisme Attractivité et là vous avez plein de choses. Nous sommes toujours donc avec Victor Noël et ce jeune garçon poursuit son voyage et sa réflexion. C'est pas mal, là.
Avec un beau nid de pie avec le toit au-dessus du nid.
Oui. On se met dans un petit repli parce qu'il y a quand même du vent. Voilà. Tu nous emmènes là parce qu'on est vraiment en pleine zone industrielle. Donc, il y a de l'acier qui sort de l'autre côté. On a donc des camions en veux-tu, en voilà. Et la vie, quand même, est là. Cette nature que les gens ne regardent pas, elle est là.
Ah oui, les friches, c'est des milieux naturels un peu oubliés. Non seulement qu'ils sont oubliés, qu'ils ne sont pas reconnus comme des lieux qui peuvent être riches de vie, et c'est des lieux qui sont non seulement oubliés, mais qui sont méprisés. Hein, on les perçoit un peu comme des vides à combler.
Ah oui.
C'est vrai que les friches, elles symbolisent pour nous l'abandon, et finalement, c'est dans notre prétention anthropocentrique qu'on ne supporte pas ce qui est abandonné, et donc on veut à tout prix leur redonner vie, qui à tout prix une nouvelle activité humaine qui se remette en place sur ces zones, mais pourquoi leur redonner vie ? Les chardonnerets, les faucons cresserelles, les cardères ici qui nourrissent les pollinisateurs, les fabacées qui fleurissent ici en été. C'est ça la vie de la friche. Il n'y a pas besoin de lui redonner vie. Est-ce qu'on dit qu'il faut redonner une vie à une forêt ? On ne le dit pas. Et en fait, la friche, c'est des milieux assez incroyables où il y a des plantes de tout horizon qui se mélangent, qui se brassent pour faire quelque chose d'assez unique. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une friche qui ressemble à une autre. Voilà, c'est...
Oui.
Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour accueillir plein d'espèces.
Ah bah
là, on entend l'alouette
hein,
qui est là, qui niche au sol.
Oui.
Dans les talus, il va peut-être y avoir des abeilles. Après, quand une friche est détruite, il faut l'éviter. Mais malheureusement, quand une friche est détruite, eh ben, il faut qu'il y en ait d'autres ailleurs, que les espèces puissent bouger. Hein. Le vivant, c'est un mouvement.
Partout dans le monde, les événements climatiques extrêmes se multiplient. Les maux de la Terre peuvent-ils jouer sur notre morale, au point de nous angoisser ?
Je ne peux pas m'empêcher de me dire, mais quel monde est-ce qu'on va laisser aux générations futures ?
À mon échelle, je me sens un peu impuissant. Ouais.
Une étude menée auprès de jeunes du monde entier confirme cette tendance. 75% jugent le futur effrayant. 45% disent même souffrir d'éco-anxiété.
Victor, en fait, toi, tu as entre guillemets cette chance parce que tu n'es pas touché par l'éco-anxiété. Et pourtant, donc, depuis tout petit, tu t'intéresses à ces sujets. Tu vois bien qu'on n'a pas forcément d'énormément de sujets de satisfaction, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en même temps, tu arrives à résister à ça.
Oui, je ne peux pas dire que je suis éco-anxieux. Alors forcément, l'anxiété, elle est légitime. Hein, il y a beaucoup de jeunes qui ont commencé à se poser des questions et à s'engager.
Il y a à travers le
suite
climat.
À, hein, voilà, surtout suite au climat, mais suite à une éco-anxiété qui est légitime. Il ne faut pas que cette éco-anxiété elle soit dépolitisée. C'est-à-dire que c'est un peu le piège du capitalisme, c'est de tout faire reposer sur l'individu.
Et oui.
Et voilà, c'est de psychologiser. C'était finalement, vous avez qu'à être un peu plus, comment dire, éco-responsable dans vos vies. Cette éco-anxiété, elle disparaît et tout va bien et roule ma poule et le capitalisme peut perdurer.
On va donc faire un peu de développement personnel.
Voilà, voilà, et du développement personnel et tout ce tralala la l'air qu'on peut.
C'est
voilà.
Pas forcément tralala.
Non, mais c'est pas du tralala la l'air, mais dans un contexte, voilà, où finalement, c'est on dépolitise dedans. Tout oui. Et on fait tout reposer sur l'individu. Oui, c'est un peu du tralala la l'air, ce fait de vouloir tout dépolitiser. Alors c'est vrai, cette anxiété, elle est légitime, mais j'ai entendu quelqu'un qui disait ça. Je crois que c'était Frédéric Lordon qui disait oui, éco-anxieux, mais surtout éco-furieux. Donc à partir du moment où on est éco-anxieux, il faut rentrer dans la lutte, il faut rentrer dans le combat de notre temps contre un système destructeur. Alors forcément, quand maintenant on parle d'écologie, d'une société plus respectueuse du vivant, une société de la considération du vivant qui ne respecte pas le vivant uniquement sous un prisme utilitariste, c'est d'abord culturel. Mais il y a aussi tout ce pan politique, et la politique c'est pas un gros mot, tout est politique.
Et non.
Et la volonté politique, c'est quelque chose de fondamental. Là, actuellement, c'est politiquement, on est à des années-lumière de ce qu'il faudrait faire. Je me souviens qu'Emmanuel Macron avait dit qu'il n'était pas pour un droit de la nature supérieur au droit de l'homme. Mmh. Ça dit qu'il l'oppose encore, ce dualisme. On entend parler de presque de robotique, de technologie, de la technique. Alors, je suis pas contre la technique, ça peut être utile dans certains cas, mais il faut pas tout miser sur la technique. Le changement, il est de l'ordre de la sensibilité. Et voilà, on peut pas
là,
attendre.
Tu viens de dire un gros mot intéressant.
De la sensibilité, voilà. C'est ce qui manque au gouvernement actuel. Ouais. Qui réprime les luttes. Bravo. Voilà. À beaucoup d'humains aussi, ouais. mais voilà. Mais en fait, le capitalisme, il se nourrit des crises qu'il engendre. Donc il peut pas s'auto-corriger. Hein, j'avais entendu quelqu'un dire ça. Ils vont nous vendre le plastique qui va venir dans les océans. Après, ils vont nous vendre le bateau pour aller le chercher. Donc il peut pas se corriger par lui-même.
Alors tu es un garçon absolument de partage. Comment tu fais avec les copines et les copains? Parce que parfois, tu peux en rencontrer, donc ils sont... Alors ceux qui sont simplement consommateurs, d'autres qui sont engagés, mais qui sont plus ou moins pessimistes. On sait qu'on vous a donc filé un sac à dos avec 30 kilos sur le dos et qu'on vous demande de courir le marathon, donc les uns les autres, donc c'est pas très très simple. Mais qu'est-ce qui donne quand même toujours envie, toujours espoir? Donc il y a le beau, il y a la nature.
Avant de revenir sur la question des jeunes... Il y a souvent la question qui revient des récits de... L'idée, c'est pas de se forcer à trouver le futur désirable et de se trouver le futur merveilleux. On va vers un effondrement de nos sociétés telles qu'on la connaît, vers une époque dramatique. L'idée, c'est de construire autre chose. Et j'étais tombée sur une phrase qui disait que l'humanité ne passe à l'acte que quand elle est habitée par ce qui n'existe pas. Alors, je sais pas si c'est entièrement vrai, mais je pense que c'est quelque chose de vraiment fondamental. Et il disait, voilà, des tableaux jamais peints, des livres jamais écrits. Et c'est ça qui doit nous motiver. Souvent, on parle d'écologie punitive, voilà, comme si on faisait que renoncer. Non, c'est qu'est-ce qu'on construit dans notre nouveau rapport au vivant, dans nos nouvelles valeurs.
On parle de récits du futur.
Voilà, de nouveaux récits. Mais pour répondre sur est-ce que tu observes les gens ou les jeunes en particulier, est-ce qu'ils sont conscients de tout ça? Des fois, dans les manifs, il y a un slogan, je crois que c'est « consomme, travaille et ferme ta gueule », je crois que c'est un truc comme ça. Et donc, ça redit encore la question de l'individu. Il y a souvent la question de les habits, les portables. D'accord, ne pas être dans le consumérisme, c'est quelque chose de très important. Mais comment faire quand on est dans un contexte qui nous ringardise si on n'est pas dans le consumérisme?
Oui.
Je sais pas, je me mets à la place d'un jeune qui pourrait avoir envie d'aller vers un mode de vie plus sobre, mais s'il est entouré par des pubs, qu'on dit qu'il est ringard, ça va pas fonctionner, quoi. Donc... C'est pour ça, encore une fois, qu'il faut d'autres récits et ringardiser ce qui n'a plus lieu d'être.
Ouais.
Voilà, enlever les pubs dans les villes, c'est pas toujours légal, mais la désobéissance civile, elle est importante parce que non seulement elle peut permettre des petites victoires, mais je pense qu'elle est surtout importante symboliquement. C'est-à-dire, elle dit que ce qui n'est légal n'est pas forcément légitime. Il est légal de faire des méga-bassines, de s'accaparer le bien commun, de détruire le vivant, de détruire
légal,
le futur. Mais c'est légal, mais c'est pas moral, c'est pas légitime. Or, il est illégal de faire de la désobéissance civile pour défendre l'humain et le vivant, mais c'est complètement légitime. Et donc c'est ça que questionne la désobéissance civile, et c'est très important.
Bonjour à toutes et à tous. On va vous expliquer pourquoi on est là. On est là pour réveiller les consciences et vous dire d'arrêter cette surconsommation. C'est une mascarade qui détruit la planète, qui détruit les écosystèmes, dont l'espèce humaine, qui nous met tous en danger.
Et nous empêcher.
Et c'est exactement ce que représente ce Black Friday.
On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat.
Bon, Victor, avant de se quitter, question classique, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
À moi, personnellement, pas grand-chose, mais... Bah voilà, c'est pas une époque terrible pour la biodiversité, mais voilà, il y a l'émerveillement aussi, surtout. Il y a des ronciers qui sont là, on en a parlé tout à l'heure, bientôt en été ils vont fleurir. Il y a les pollinisateurs qui vont venir butiner, il y a toutes ces interactions entre les espèces. Voilà des choses anodines de la vie de tous les jours. Donc ce que je peux nous souhaiter aussi collectivement, c'est d'être attentif, d'être émerveillé, d'être... percer cette bulle du renfermement sur nous-mêmes pour nous ouvrir au monde qui nous entoure, à cette richesse incroyable. Et je terminerai par ce qu'on peut nous souhaiter aussi collectivement, c'est de rentrer aussi collectivement dans la lutte, dans l'engagement pour ce vivant. C'est quelque chose qui est lié. Et moi, je suis pour une déferlante. Je suis pour qu'on déferle dans les rues. La révolte, ça doit se sentir dans l'air. La moindre banderole qui est accrochée devant sa maison, le moindre son d'un mégaphone, le moindre... Il faut qu'on multiplie toutes ces petites occasions qui font qu'on marque l'air d'une notion de révolte. Voilà, je sais pas, je vais peut-être un peu loin, mais qui pousse les gens à collectivement entrer dans la bataille pour une société qui a plus de sens.
Merci beaucoup, Victor.
Merci à toi, surtout.
À bientôt.
À bientôt.
Voilà, donc à la fois lucidité, hein, d'accord, pas d'accord, peu importe, mais en tout cas c'est très intéressant de voir la maturité donc de ce jeune garçon, et surtout le vivant, la vie, voilà, c'est ça. Quoi qu'il arrive, on a besoin effectivement de cette beauté, de cet émerveillement, de cette envie de protéger donc tout cela, et de le faire sien ou de faire sienne donc cette nature. Vous retrouvez un peu donc... tout cela de Victor Noël dans cet ouvrage, hein, sur les chemins du vivant, carnet de route d'un jeune naturaliste engagé aux éditions de La Chaux et Niesley. Merci beaucoup à Rémi Sissiaga qui a très bien mixé ce reportage, à notre collaboratrice Camille Blanès, à Juliette Gou qui a réalisé le tout. Thierry Dupin a choisi ces deux disques très très sympas. Alors la semaine prochaine, je vais vous emmener dans la Vallée d'Or, A-U-R-E. C'est la Vallée des Vents, en fait. On va partir dans les Hautes-Pyrénées et on va rencontrer pas très loin de Saint-Lary donc Daniel Guilly, qui est un bel accompagnateur, lui aussi donc un fou du vivant. Et puis, alors bon, les podcasts, vous en avez l'habitude. Bestiole aussi donc revient avec toute l'équipe, Stéphanie Fromentin, les auteurs, Brigitte Lecordier, etc. Voilà, donc vous pouvez vous régaler. Agnoro aussi, qui est aussi la réalisatrice, que j'oublie pas. Et puis nous avons donc les Paroles de Piaf. Paroles de Piaf, ça aussi, alors ça c'est autre chose, sur l'application Radio France, les Paroles de Piaf. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche et donc à la semaine prochaine.